L'association propose justement de former des duos de demain, c'est le nom du dispositif, soit des bénévoles qui parrainent chacun une personne accompagnée par France Terre d'Asile, le tout dans une optique de partage culturel, de découverte, de liens amicaux. L'objectif pour les instigateurs du dispositif, c'est bien de favoriser l'intégration sur le territoire. On les écoute.
Bertie Ntiamengue, directrice du CPH Laval, qui fait partie de l'association France Terre d'Asile.
Bonjour, Fabrice Fontaine, chef de service sur les dispositifs d'hébergement CADA et UDA, donc centre d'accueil pour demandeurs d'asile, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Donc je suis situé à Laval et Château-Gontier. J'ai un collègue qui s'appelle Domitien de Massé, qui est chef de service à Mayenne, et on travaille sous la responsabilité d'Angélique Houdou, qui est directrice régionale.
Donc France Terre d'Asile qui justement a lancé depuis déjà quelques semaines, voire même quelques mois, en tout cas un nouveau projet de parrainage citoyen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Tout à fait. L'opération Dieu de demain est une action de parrainage citoyen qui consiste à la création d'une relation privilégiée entre une personne habitant en France, appelée parrain ou marraine, et une personne bénéficiaire de la protection internationale, appelée filleule ou filleule. L'objectif étant de parfaire l'intégration des filleules dans la société française, en visant notamment l'amélioration du niveau de français des filleules, la découverte de l'environnement quotidien, la transmission des valeurs de la République. Donc c'est une relation d'égal à égal, sachant qu'une charte est signée, voilà, pour un accompagnement qui dure 6 mois, renouvelable une fois. Donc France Terre d'Asile encadre cette relation, mais qui certainement évolue en termes d'amitié. C'est une relation privilégiée entre le parrain et le bénéficiaire de la protection internationale.
Quel est l'intérêt justement de faire appel à des bénévoles peut-être extérieurs en tout cas, et pour justement l'accompagnement de la personne réfugiée? En quoi c'est important que ce soit aussi quelqu'un d'extérieur? En quoi ça va l'aider justement dans son intégration et peut-être dans ses démarches ou au quotidien?
Alors, le bénévole parrain ou marraine, effectivement, ne fait pas l'accompagnement ni juridique ni social. On est bien dans une relation d'amitié, une relation qui permet la découverte de l'une et de l'autre partie. Et donc, avec un tiers, au-delà de l'accompagnement qui est fait par les intervenants sociaux, il y a une plus-value, justement, à faire passer les valeurs de la République, à accompagner les personnes dans les loisirs, dans la culture.
Oui, c'est ce que je pensais. Ça permet aussi peut-être de faire découvrir tout simplement la ville et puis les différentes associations et activités qui peuvent exister ici à Château-Gontier ou à Laval, en l'occurrence.
Tout à fait. C'est bien entendu l'objectif de l'intégration avec un grand I, d'accompagner effectivement les bénéficiaires de la protection internationale dans leur environnement, dans le patrimoine du département de la Mayenne, voire au-delà, mais principalement effectivement dans l'environnement qu'ils découvrent, ou même s'ils le connaissent déjà, qu'ils peuvent aller vers l'intégration, accès aux loisirs, accès à la culture, accès au sport, etc.
J'imagine que vu que c'est aussi quelque chose d'informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des réunions prévues toutes les semaines, etc., en termes de justement d'investissement, ça doit être aussi personnel, en fonction des disponibilités de la personne et de ce qu'elle est capable de faire, aussi bien en termes d'investissement et que de temps aussi.
Oui, alors pour la création des duos avec un parrain ou une marraine et un filleul ou une filleule, nous nous assurons toujours que les personnes, les bénévoles, aient à minima de la disponibilité. C'est-à-dire que, comme disait Mme Ntiamengue, on est sur une charte pour 6 mois, à raison de, à minima, une rencontre par mois. Voilà, ça c'est vraiment le minimum qui est demandé, de manière à ce qu'il puisse y avoir au moins une fréquence qui permette d'établir un lien, et puis de pouvoir assurer des sorties, des rencontres en fonction des objectifs que se fixe le duo.
Il y a déjà du coup un duo qui s'est formé. Est-ce que, alors même si c'est tout récent, est-ce que vous avez déjà quelques retours? Comment ça se passe? Comment se sont passées finalement les premières rencontres?
Là, ce jour, nous avons un premier duo de demain qui s'est formé, qui est tout récent, qui s'est formé au mois de mai, avec une bénévole, une jeune bénévole, et donc une maman de deux enfants, BPI, donc bénéficiaire de la protection internationale. Voilà, donc là, c'est tout récent. Nous avons aussi, au sein de France Terre d'Asile, une personne qui est là pour s'assurer que le duo fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Et donc là, pour l'instant, nous n'avons pas encore trop de recul, puisque c'est tout frais. Mais nous ferons un bilan prochainement sur la constitution de ce premier duo. En tout cas, la première rencontre s'est très très bien passée, et donc on a une marraine et une filleule qui sont très très enthousiastes.
Si justement on veut suivre leur exemple et qu'on a envie nous aussi de devenir parrain ou marraine d'une personne, comment est-ce qu'on peut faire?
Alors, si vous êtes intéressé par le parrainage citoyen pour devenir parrain ou marraine, vous pouvez donc appeler au numéro suivant, donc le 02 43 03 71 20, ou envoyer un mail à Karine Bonbon, donc k.bonbon@france-6terre-6asile.org.
Très bien, bon, bah, c'est noté en tout cas, comme ça on a toutes les infos si on veut rejoindre le dispositif. On va maintenant un petit peu dézoomer, élargir, puisque donc on a parlé de ce projet de parrainage citoyen, mais c'est loin d'être la seule action évidemment de l'association France Terre d'Asile ici en Mayenne. Alors ça va être compliqué ce que je vais vous demander, ça va être de présenter très globalement les actions de l'association ici en Mayenne auprès des réfugiés et des demandeurs d'asile. Quelles sont-elles les principales actions sur le département?
Alors France Terre d'Asile, c'est 5 établissements donc en Mayenne qui accueillent, orientent, hébergent et accompagnent les demandeurs d'asile ainsi que les personnes bénéficiaires de la protection internationale. Donc c'est un accompagnement socio-professionnel, c'est un accompagnement vers la santé avec au niveau des bénéficiaires de la protection internationale un appui par rapport à l'apprentissage de la langue française.
Il y a aussi des logements qui sont dans le département justement pour accueillir ces personnes. Il y en a notamment à Château-Gontier, à Laval, à Mayenne aussi. Quels sont-ils justement? Est-ce qu'on peut présenter un petit peu une cartographie de ces logements proposés?
Effectivement, France Terre d'Asile gère un parc d'hébergement donc sur l'ensemble du territoire mayennais, notamment sur les trois villes que sont Mayenne, Laval et Château-Gontier. Donc aujourd'hui, ça représente 72 appartements. Alors là, je parle au niveau des dispositifs d'hébergement CADA et UDA pour une population de personnes qui sont en demande d'asile spécifiquement et que nous accompagnons dans le cadre de la procédure juridique de la demande d'asile et que nous accompagnons vers le statut de réfugié ou une protection internationale. Donc à noter que toutes les personnes n'obtiennent pas au terme de leur procédure d'asile une protection internationale.
Pour la partie CPH, nous avons effectivement 21 logements, dont 13 logements à Laval, à Val-Aglo, et 8 logements sur Château-Gontier. Alors, le public donc, qui est orienté par l'OFI, l'Office français de l'intégration, de l'immigration et l'intégration, pardon, est un profil à 30% famille et à 70% personnes isolées. Donc, ces personnes qui arrivent ont le statut de réfugiés ou de la protection subsidiaire.
Est-ce que justement depuis que vous êtes présent ici en Mayenne avec ces actions-là, il y a eu une évolution du nombre de personnes que vous accueillez mais aussi du profil?
Nous, déjà au niveau des hébergements, en fait, nous sommes financés à la place. Aujourd'hui, on compte sur le dispositif CADA 190 places. Donc, place, c'est toute personne confondue, c'est-à-dire personne adulte comme enfant. Sur le dispositif UDA, nous comptons actuellement 116 places. Et donc sur le CPH, nous comptons 75 places. Donc ça déjà, c'est pour vous dire effectivement le nombre de personnes que nous accompagnons sur les dispositifs d'hébergement. À noter aussi que France Terre d'Asile, c'est aussi une SPADA, qui est aussi un autre dispositif. Donc SPADA, S-P-A-D-A, Service de Premier Accueil des Demandeurs d'Asile. Là, il s'agit d'un dispositif qui accueille, qui domicilie et qui accompagne dans la procédure juridique les demandeurs d'asile, qu'on appelle aussi les primo-arrivants sur le territoire. Mais toutes ces personnes qui représentent aujourd'hui 350 personnes domiciliées en Mayenne ne disposent pas d'hébergement. Donc c'est aussi une partie du public. Hein.
Est-ce que c'est suffisant, justement, tout ce nombre de places que vous avez évoquées ? Est-ce que ça répond en tout cas suffisamment aux besoins pour l'instant ? Ou il manque quelques places ?
Donc aujourd'hui, on est aussi sur un projet d'extension de places actuellement, de 40 places supplémentaires sur le CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et donc nous sommes en train de développer actuellement ce projet en Sud-Mayenne, notamment sur des villes comme Cran, comme Caussé-le-Vivien, comme Renazé, et comme Mélédumène, pour notamment étendre le parc d'hébergement pour demandeurs d'asile.
Là, ce sera à quelle échéance, du coup, ce projet ?
Ce projet, il est en cours au cours de cette année. Donc, nous sommes en train de capter des nouveaux logements de manière à pouvoir rendre opérationnel ce projet.
Toute cette question de l'hébergement qui est forcément très importante, mais l'accompagnement, il est loin de se limiter à ça aussi. Comment se fait cet accompagnement au quotidien pour ces personnes et combien de temps est-ce que vous les suivez ? Comment ça se matérialise ?
Alors concrètement, par rapport au CPH, donc au Centre provisoire d'hébergement, les personnes, comme je vous le disais, ont un statut de réfugié, donc elles sont du droit commun. Et qui dit droit commun, c'est tout l'accompagnement global, social, professionnel. Et les deux piliers en termes de mission principale au niveau du CPA, c'est amener la personne vers l'autonomie pour accéder à une formation ou un travail et avoir un logement dans le droit commun. Voilà. Donc aujourd'hui, le contrat d'hébergement et d'accompagnement qui est signé par la personne, il est d'une durée de 9 mois qui est prolongée en 3 mois avec la validation de l'OFI.
Pour ce qui concerne notre centre d'hébergement CADA et UDA, nous accompagnons, nous accueillons et donc en hébergement et accompagnons donc des personnes qui sont en demande d'asile, où là il s'agit effectivement de les accompagner d'un point de vue social et d'un point de vue juridique. Donc juridique, c'est-à-dire que là nous les accompagnons tout au long de la demande d'asile. Et d'un point de vue social, puisque nous les accompagnons dans un objectif d'une plus grande autonomie, de s'intégrer dans le tissu local, de favoriser des liens avec la ville dans laquelle ils se trouvent, de faire du lien sur le champ de la scolarité, de la santé, des acteurs locaux, des associations caritatives, etc., etc. Et puis, une fois que les personnes obtiennent un statut et donc une bénéficiaire de la protection internationale, là, nous les accompagnons sur le volet de l'insertion, puisque c'est des personnes qui accèdent aux droits communs, pour lesquelles donc, nous les accompagnons dans le cadre d'une demande d'hébergement et de logement. Nous les accompagnons dans le cadre de l'emploi et de la formation.
La crise sanitaire a marqué l'activité globale depuis un an et même quasiment un an et demi. Est-ce que vous, ça a eu un impact aussi sur vos missions et vos activités ? Est-ce qu'il y a eu plus de monde ou alors il y avait un accompagnement peut-être différent à fournir ? Comment est-ce que ça s'est manifesté ?
Alors, au niveau du CPH, la priorité a été de garder le lien social. Ça a été la priorité. Donc, les personnes ont été, bien entendu, confinées selon les mesures gouvernementales. Et au niveau des équipes, il y a eu une grande adaptabilité, justement, pour faire en sorte que ce lien social soit préservé. Et au niveau des partenaires, effectivement, il y avait des dispositions qui ont été prises et en fonction. Donc, on pouvait accompagner les personnes par rapport à leur démarche administrative, que ce soit sur les sites Pôle emploi, CAF, voilà. Donc il y a eu vraiment cette priorité de garder le lien social par les outils numériques aussi.
J'ajouterais aussi, nous, que pendant la période effectivement sanitaire, le contexte sanitaire, nous avons aussi eu un rôle qui est de sensibiliser le public effectivement aux mesures sanitaires et aux gestes barrières, notamment. Nous avons été dotés aussi de masques que nous avons pu distribuer au public. Nous les avons sensibilisés aussi au respect du confinement pendant les périodes de confinement. Nous avons aussi, en lien avec l'Agence régionale de santé et une équipe mobile sanitaire sur le département, mis en place des tests.
Pour s'engager dans le dispositif Duo de demain ou pour être bénévole sur d'autres missions, vous pouvez contacter Karine Bonbon. On rappelle son adresse mail, c'est k.bonbon, comme un bonbon, @france-terre-asile.org.